Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faisaient guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, l'évangéliste saint Luc, comme dans la plupart des pages de son évangile, est extrêmement attentif dans son récit à la mise en scène. Le Seigneur Jésus vient de passer toute la nuit sur la haute montagne pour prier Dieu son Père dans le Saint-Esprit. Le Seigneur est en haut de la montagne. Au lever du jour, il descend quelque peu de son sommet et appelle à sa suite 12 hommes de sexe masculin, faut-il préciser, de nos jours, pour qu'ils soient apôtres, et c'est à eux qu'il va confier l'Église en faisant les intendants des mystères de Dieu. Le Seigneur est descendu de la montagne, il est la tête de l'Église, et confie son Église à ses apôtres qu'il vient d'appeler, et au premier d'entre eux, qui n'est pas le fils aîné, Pierre, que l'on appelait avant, « Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre je confierai mon Église. » Pourtant, c'est son frère André qui a conduit le Seigneur Jésus, qui a conduit son frère Pierre au Seigneur Jésus. Il y a un ordre et une hiérarchie, car une fois que le Seigneur a appelé ses apôtres, il arrive sur un terrain plat. Et là se trouvent tout d'abord ses disciples. Discipulus en latin signifie élève. Et voilà le divin maître qui a choisi 12 hommes à qui il va confier l'Église. Et voilà qu'ils sont envoyés tout d'abord pour instruire à la suite du Seigneur Jésus ses disciples que nous sommes. Et ensuite, nous dit saint Luc, il y a cette foule et cette multitude de gens qui ne sont pas encore disciples, mais qui sont appelés à l'être. Et voilà que les apôtres, appelés par le Seigneur Jésus, seront appelés à nourrir les disciples, lorsque celui-ci sera mort, ressuscité et élevé à la gloire du ciel. Ils seront là pour transmettre l'enseignement du Seigneur Jésus, ils seront là également pour communiquer sa grâce dans les sacrements. Ce sont les intendants des mystères de Dieu, mais ils seront tout autant appelés à évangéliser avec les disciples cette multitude. Saint Luc nous présente là une image de l'Église, une Église hiérarchique. Le Seigneur est la tête de l'Église, nous sommes chacun membre de ce corps. Et dans ce corps, il y a ceux à qui a été confiée la gouvernance de l'Église, son enseignement et sa sanctification, les apôtres, dont nos évêques sont les successeurs. Le pape, 266e successeur de l'apôtre Pierre, notre évêque, successeur d'une longue lignée d'évêques en notre Bigorre à la suite de Saint Justin, qui nous a transmis la bonne nouvelle de l'Évangile, qui nous fait vivre encore aujourd'hui en notre pèlerinage diocésain. Et puis chacun d'entre nous, figuré par ses disciples qui écoutent le Seigneur Jésus à travers l'enseignement des apôtres. Si l'ancienne alliance a été fondée sur les 12 tribus d'Israël, le nouvel Israël, l'Église envoyée à toutes les nations, est fondée, elle, sur les 12 apôtres. Et le Saint-Concile Vatican II veut bien nous rappeler que toute cette tradition apostolique que nous recevons du Seigneur Jésus s'est terminée, non pas lorsque le Seigneur est monté à la gloire du ciel. La révélation s'achève, le dépôt de la foi éclot, tout a été dit à la mort du dernier apôtre, parce que leurs yeux ont vu, leurs oreilles ont entendu ce que nous ne voyons pas, ce que nous n'entendons pas directement. Et les apôtres ont bénéficié également de l'enseignement secret du Seigneur. En aparté, ils pouvaient poser des questions et le Seigneur les enseignait, mais encore davantage lorsque celui-ci, ressuscité d'entre les morts, leur confie la mission de l'Église. « Pierre, m'aimes-tu ? Sois le pasteur de mes troupeaux. » Trois fois, le Seigneur demande à Pierre, qu'il a renié dans la Passion, s'il aime d'amitié, puis s'il aime d'adoration, car le Seigneur Jésus n'est pas un homme parmi tant d'autres. Dans son humanité se tient cachée sa divinité, c'est le miracle des miracles du Seigneur Jésus. Tous voient un homme et cheminent aux côtés de Jésus de Nazareth, mais finissent par confesser dans la foi que celui-ci est le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant, affirmera Saint-Pierre dans cette profession de foi qui est la pierre angulaire de l'Église. Nous reconnaissons que le Seigneur est le Messie, mais le Seigneur a envoyé bien plus qu'un prophète. Il a envoyé comme Messie son Fils, l'agneau de Dieu, qui offre sa vie pour le pardon de nos péchés. Ici à Lourdes, la Vierge Marie a choisi également cette région montagneuse, cette montagne, et plus particulièrement le terrain plat qui ouvre la grotte de Massabielle sur ces eaux innombrables du canal du Savy et de Massabielle, où elle vient dans le creux du rocher reprendre le ministère de Saint Jean-Baptiste. Le message de Lourdes est prophétique. La Dame l'a dit le 25 février 1858, « Allez à la source ». Boire et vous laver. La source, c'est notre Seigneur Jésus le Christ. La source des sacrements, c'est l'image de ce cœur transpercé d'où il en a jailli et du sang et de l'eau, image de chacun des sacrements de l'Église qui nous communique les innombrables grâces du Seigneur. Et nous entendons Saint Jean dans son prologue nous dire « grâce après grâce ». Nous avons tout reçu de lui. Grâce après grâce, il plaît au bon Dieu de passer par la plaine de grâce qui s'est manifestée dans la grotte bénie de Lourdes pour nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. En cela, elle est immaculée, sans péché, pour venir au secours des pauvres pécheurs. En cela, elle est la conception, celle qui a porté notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair à une mission maternelle au pied de la croix, devenir notre mère dans l'ordre de la grâce, chacun nous concevoir et nous enfanter à l'ordre de la grâce, et nous recevons grâce après grâce par la bienheureuse Vierge Marie, car il plaît au Seigneur de passer par ce canal privilégié de la grâce qu'est Notre-Dame. Le Seigneur Jésus vient d'appeler les apôtres à sa suite, comme la dame appellera Bernadette et nous à travers Bernadette, à la prière pour la conversion des pécheurs que nous sommes, à faire pénitence pour manifester notre conversion, c'est-à-dire pour manifester au bon Dieu que nous avons un grand désir de revenir vers lui. Elle demandera en ce lieu improbable de Massabielle, planté au milieu des eaux, que soit bâtie une chapelle, non pas une église, parce que le baptême, nous l'avons déjà reçu dans nos églises paroissiales. Elle ne nous invite pas à venir à Lourdes pour vivre notre vie ordinaire de chrétien, mais pour vivre l'extraordinaire d'un pèlerinage où le ciel a touché et visité la terre. La bienheureuse Vierge Marie dit à Bernadette le 18 février, « Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» C'est la question que nous demande Notre-Dame. Voulons-nous avoir la grâce, cette force surnaturelle qui seule nous permettra d'aller au ciel. Et pour cela, elle demande la chapelle, pour que notre baptême soit conduit à son premier jaillissement, aller à la source, boire. Seul le Christ étanche notre soif de connaître Dieu et de tout connaître à sa suite, et d'aller nous laver. Saint Jean le voit dans l'Apocalypse, ils ont plongé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voilà que nous sommes lavés de nos péchés, enfantés à la miséricorde de Dieu et envoyés alors dans le monde en témoin du Seigneur mort et ressuscité, celui qui nous relève de nos péchés, comme il a relevé la pécheresse, celui qui nous relèvera de notre tombeau lorsque la mort nous en retiendra captifs. Car par ce baptême, cette source de grâce qui coule en nous, eh bien nous sommes enfantés dans la résurrection du Seigneur. C'est une magnifique expression qu'use saint Luc dans son évangile. Nous sommes chacun enfants de la résurrection. Eh bien voilà ce que la Vierge est venue communiquer ici. Elle est la conception de l'Église. En bonne mère, elle veut que ses enfants soient réunis en cette Église parce qu'elle en est la mère et qu'elle veut que nous revenions au Seigneur de tout notre cœur dans la conversion, la pénitence, la prière pour pouvoir mériter non pas le bonheur éphémère de ce monde, mais pour pouvoir connaître le bonheur de l'autre monde. Le Seigneur Jésus, dans cet évangile, eh bien, manifeste cette bonté de Dieu en raison, nous dit saint Luc, de cette force intérieure qui jaillissait de lui et qui guérissait les malades, qui expulsait le démon et rapportait la paix dans l'âme des fidèles tourmentés. Voilà aussi ce que Notre-Dame vient faire. Elle vient opérer ce règne de paix, ce règne de justice intérieure. Nous avons à être ajustés à la loi de Dieu, à l'aimer de tout notre cœur, et alors nous sommes renvoyés à cet amour du prochain. C'est ce que le Seigneur attend de nous jusqu'au jour où il nous dira, comme dans la parabole, « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, ainsi soit-il ».